masterclass de France Culture. Aujourd'hui, Camilla Läckberg avec Quentin Lafay.
Nous ouvrons à présent la masterclass de Camilla Läckberg en public, justement à la Bibliothèque nationale de France. Cette série intitulée En lisant, en écrivant, c'est un principe simple que je vais me permettre de vous rappeler. Chaque mois, un grand nom de la littérature contemporaine est invité par France Culture, par la BNF et par le Centre National du Livre à parler de sa pratique de l'écriture, comment une autrice, un auteur crée une œuvre, son œuvre, quel est le chemin de la création, de l'idée originelle jusqu'au produit final, si je puis dire, qu'est-ce qui fait la singularité aussi du travail d'écriture, du travail artistique et créatif. C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre, ou plutôt que Camilla Läckberg va tenter de répondre avec nous. Quelques mots peut-être sur vous pour commencer, Camilla Läckberg, puisque tout le monde ne connaît pas forcément par cœur votre biographie en France. Je rappelle que vous êtes née en 1974 en Suède et après des études à la Gothenburg School of Economics, vous vous installez à Stockholm. En 2003, vous entamez l'écriture de votre premier roman paru, intitulé en français « La princesse des glaces ». Vous rencontrez alors rapidement un succès international impressionnant grâce à votre héroïne Erika Falk et à la série Fjällbacka. Publiés dans plus de 60 pays, vos livres se sont vendus à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde et ils ont fait l'objet d'un grand nombre d'adaptations audiovisuelles. Et comme si cela ne suffisait pas, ça a été mentionné, vous êtes aussi entrepreneuse, écrivaine de romans, de livres pour enfants, de livres de cuisine. On en parlera puisque ça fait évidemment partie de l'ensemble de votre œuvre de création. Et comme dans chacune de ces masterclass, on commence avec cette idée qu'on aime déconstruire au fond, l'idée de la vocation. Est-ce que vous y croyez ou non ? J'ai lu, j'ai entendu que vous avez écrit votre première histoire à l'âge de 5 ans et ça racontait l'assassinat de la mère Noël par son célèbre mari. Alors est-ce que c'était déjà un goût prononcé pour le morbide, pour le meurtre et pour les séries noires ? Oui, est-ce que ça vous prédestinait à écrire du polar, Camilla Läckberg?
Yes. I have ever since I was a very small child.
J'ai depuis toute petite été attirée par cette part sombre, par le côté horrible. Allez savoir pourquoi. Pourtant, j'ai eu une enfance tout à fait heureuse, mais contrairement à mes camarades de classe et aux petites filles de mon âge, je ne m'intéressais pas aux chevaux. Je m'intéressais plutôt aux serial killers. Et c'est un sujet, cette part sombre de la nature humaine, qui m'a toujours fascinée.
Une attirance pour les serial killers, est-ce que ça se traduisait justement dans des formes de lecture ? Est-ce que vous êtes entré dans le polar par l'écriture de cette nouvelle où la mère Noël se faisait rageusement assassiner, ou plutôt par la lecture de polar, Camilla Läckberg ?
Quand j'étais enfant, j'étais de ces enfants qui s'asseyaient à la maison, qui prenaient un livre et qui lisaient dans leur coin. Et je tiens cet amour des livres de mon père, qui était un féru de lecture et qui jonglait toujours entre plusieurs livres à la maison. Et on avait à la maison des tonnes de livres. J'ai commencé par lire des BD et d'ailleurs j'encourage chaleureusement tous les parents à laisser leurs enfants lire un maximum de bandes dessinées.
And then I found my first Agatha Christie book in my father's bookshelf.
Et puis à 7 ans, j'ai découvert mon premier Agatha Christie et ça a été ainsi que l'histoire d'amour a démarré. Mais je ne me suis pas arrêtée là, j'ai commencé à tout lire à partir de là et je pense qu'en tant qu'autrice, la meilleure école qu'on puisse connaître, c'est celle de la lecture.
Et qu'est-ce qui vous plaisait justement dans ces lectures et dans les lectures en particulier d'Agatha Christie, dans les lectures en général de polar ? Est-ce que c'était la mécanique qui se mettait en place ? Est-ce que c'était la jouissance au fond propre à tout lecteur de polar qui est tenté de trouver le meurtrier avant même qu'on ait fini la lecture du texte ? Qu'est-ce qui vous saisissait comme enfant et qu'est-ce qui vous a attiré plus tard vers l'écriture ?
I think it was a mystery of it.
C'est le mystère certainement qui m'attire le plus. Comment peut-on commettre des actes horribles et essayer en tant que lecteur de comprendre? Alors j'ai effectivement commencé avec des livres du type Agatha Christie, mais j'ai aussi lu des livres d'horreur. D'ailleurs, les deux se marient très bien. Et j'ai commencé très tôt la lecture des Stephen King.
at a very, very early age. So I think the common denominator is trying to.
Et ces deux types de littérature ont un dénominateur commun qui est le mobile. Essayer de comprendre les motivations et les explications à ce côté sombre et à essayer de dénouer les actes qui sont commis. Et c'est le moteur que j'avais en tant que lectrice et que j'ai eu plus tard en tant qu'écrivaine pour aborder mes propres écrits.
Ce qu'il faut préciser tout de suite, Camilla Läckberg, c'est que vous grandissez dans un milieu culturel particulier. Vous êtes d'abord et avant tout une autrice suédoise. Les années 80 en Suède, c'est une décennie au cours de laquelle le polar nordique, ce qu'on a coutume d'appeler du point de vue français le polar nordique, vous nous direz si ça a du sens pour vous, se développe de manière intense, d'une manière aussi singulière, vous nous l'expliquerez. Est-ce que ce contexte culturel qui met le polar en haut de la hiérarchie des genres littéraires, est-ce que ça vous a incité aussi à écrire du polar nordique, à écrire du polar?
Je pense effectivement que j'ai été influencée par cette première vague d'écrivains de policiers suédois et les tout premiers à avoir créé ce style de nordique noir, comme vous le disiez, c'est Cher Wallenvöla. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Parfait.
Et vous prononcez très bien. Oui.
Ils ont été les tout premiers à avoir non seulement des intentions très très spécifiques en matière de littérature policière, mais les premiers à avoir posé la barre aussi haut et à avoir poussé la barre aussi haut et à avoir véritablement lancé le genre du noir nordique.
It's like the Swedish tennis miracle, you know.
Et c'est un peu, je fais le parallèle avec le monde tennistique et Björn Borg. Quand Borg était au sommet de son art et de sa carrière en Suède, il a influencé 15, 20 ans plus tard toute une génération de jeunes joueurs de tennis qui ont voulu devenir des stars du tennis comme lui.
And I think it functions exactly the same way with the crime writers that we had these.
Et c'est pareil en littérature policière avec des gens qui ont voulu émuler leur style.
Même avant de commencer l'écriture de La Princesse des Glaces, vous avez pris des cours dans un très très mauvais français de creative writing. Pourquoi ça a été nécessaire? Pourquoi vous avez souhaité apprendre à écrire? Est-ce que selon vous c'est quelque chose qui s'apprend? C'est une idée en France qui n'est pas forcément très très intuitive. On a tendance à penser très souvent que l'écriture c'est quelque chose d'inné, qui a à voir avec le talent, avec la vocation. Pourquoi vous avez souhaité prendre ces cours et à quoi ça vous a servi dans vos travaux d'écriture et dans l'écriture plus précisément de La Princesse des Glaces?
Well, firstly, I think that this whole idea, because we do have it in Sweden as well.
Tout d'abord, je rebondis sur votre commentaire. En Suède, c'est pareil. On part du principe que écrire, ça ne s'apprend pas, et je trouve que cette idée est parfaitement ridicule. Après tout, tous les grands artistes sont, pour le plus grand nombre, sortis d'écoles d'art où on leur a appris à maîtriser leur art. Donc, pourquoi ne ferait-on pas la même chose en littérature?
Je me permets juste de réagir sur ce point. La critique qu'on avance souvent à l'apprentissage de l'écriture, au fond, c'est pas tant l'apprentissage que le formatage de l'écriture. Est-ce que quand on apprend dans des écoles à écrire, est-ce que on ne court pas le risque d'être formaté et de déployer des mécaniques préconçues qui entraveraient le jet artistique, si je puis dire, Camilla Läckberg?
Well, let me again compare that to an artist.
Encore une fois, je vais faire la comparaison avec un artiste peintre qui va aller dans une école d'art, qui va apprendre de quelqu'un d'autre des techniques, tout un panel de techniques, qu'il va combiner, qu'il va trier pour trouver sa propre formule. Et c'est pareil pour les cours d'écriture. Il faut y aller évidemment avec un talent, un appétit, mais pourquoi ne pas apprendre des autres qui sont passés avant nous et avec talent? Et pourquoi vouloir inventer la roue à soi tout seul?
Alors, qu'est-ce que vous avez appris concrètement à ce moment-là? Comment vous avez appris dans ces cours de creative writing? Comment vous avez appris à écrire du polar?
Yeah, well, I'll start first to tell why I took the creative writing course.
Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de suivre cet enseignement. Depuis que j'étais toute petite, je rêvais de devenir écrivaine. Mais pour moi, c'était impossible parce que les écrivains, c'était des rockstars et ça pouvait pas être moi.
This impossible dream. but I could never let it go. It was always with me. I went to university.
Et pourtant, c'était un rêve qui ne me lâchait pas. Malgré tout, j'ai poursuivi des études. J'ai décroché un diplôme de commerce marketing. J'ai commencé à bosser dans les télécommunications et aller y croire. Et puis, le rêve ne me lâchant pas, je me suis dit que j'allais m'inscrire à un cours de creative writing pour aller vérifier ce qu'il y avait derrière ce rêve.
And I learned so much in this creative writing class.
Et j'ai tant appris dans ces cours, tant d'un point de vue pratique, c'est-à-dire sur la création des personnages, que sur l'élaboration d'un cadre et d'un environnement pour un roman. Et puis, j'ai surtout vécu cette expérience qui consistait à être dans la même pièce que plein de gens qui partageaient le même rêve que moi et qui voulaient eux aussi devenir écrivains. Et ces enseignements m'ont beaucoup inspiré et je continue encore à appuyer dedans. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On avait pour enseignante une femme qui était donc autrice de romans policiers et qui nous avait donné pour conseil, écrivez sur une chose ou un environnement ou un lieu que vous connaissez très bien. Si vous n'êtes jamais allé en Égypte, ne vous amusez pas à écrire sur l'Égypte, c'est trop compliqué et j'y pense souvent.
And I often think about that. I always
parce que c'est ce que je fais en ancrant mes romans dans un environnement qui m'est familier et c'est ça qui me donne une assise et de la force. C'est bien pour ça que j'ai choisi de placer mes romans à Fjällbacka, qui est la ville dans laquelle j'ai grandi.
La ville côtière en Suède où vous avez grandi et où se passent 6-7 même de vos romans policiers, Camilla Läckberg. Comment naît l'idée d'un roman? Comment se construit même ce roman? Est-ce que vous partez de l'idée finale, de la résolution d'un crime, d'un meurtre, d'une série de crimes ou de meurtres? Ou vous partez à la manière de beaucoup de scénaristes de télévision, d'un problème et d'un contexte? Par exemple, le problème de la princesse des glaces, on retrouve cette femme dans une baignoire morte dans de l'eau glacée. Et vous créez, au fil de l'écriture, des problèmes que vous tentez de résoudre, et en arrivant à la résolution au fil de l'écriture. Par quel bout vous prenez la construction de ces récits ?
Well, I'm a very intuitive writer, and there's a million ways to write a novel.
Je suis une écrivaine très très intuitive. J'ai beaucoup d'amis auteurs suédois que vous connaissez vraisemblablement, qui s'y prennent pas du tout comme moi. Il y a des milliards de manières d'écrire un roman. Mes amis ont leur intrigue toute bien ficelée, avec des post-it partout qui décrivent tous les chapitres, toutes les scènes jusqu'au dernier détail. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, j'écris dans un chaos total.
I usually get several ideas that don't seem to go together.
Le plus souvent, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit et qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Je vais vous prendre un exemple. Dans La Princesse des Glaces, j'avais cette image en tête et je suis quelqu'un qui travaille de manière très visuelle. J'avais cette image en tête du cadavre d'une femme dans une baignoire dont seuls les genoux et le torse dépassaient de l'eau, qui était recouverte par une pellicule de glace. Je ne savais pas qui était cette femme, je ne savais pas comment elle était arrivée là.
And at the same time, I started thinking about the fact that there was.
Et parallèlement à ça, j'ai pensé tout à coup à cette période au bout de laquelle en Suède, quand bien même on avoue un crime, on ne peut pas être condamné pour le dit crime, c'est-à-dire une période de 25 ans.
And I started thinking about what happens when that 25-year marks.
Et je me dis, que se passe-t-il au bout de cette période de 25 ans? Que se passe-t-il pour le meurtrier? Que se passe-t-il pour la victime? Que se passe-t-il pour les proches?
Into the idea of the ice princess. What then happens after I've had these two ideas just.
Et je me suis retrouvée avec ces deux idées qui se baladaient dans ma tête, manifestement sans lien, et puis se sont détachées deux choses, le meurtrier et le mobile, et j'avais les deux à l'esprit, je savais de quoi il s'agissait et ça m'a donné un point de départ. Hormis ça, c'est-à-dire environ 1% de l'histoire, je n'avais rien. Néanmoins, je me suis mis à écrire et c'est comme ça que j'écris. Malheureusement, sans post-it, parfois j'aimerais bien en avoir. Et je me mets à écrire et je laisse l'histoire me prendre par la main et se déployer. Et ce que vous lisez le produit fini que vous lisez, c'est strictement ce que j'ai écrit de manière très organique, c'est-à-dire j'ai commencé au début et je vais jusqu'au bout, de bout en bout, sans m'arrêter, pas de manière morcelée.
To the last. I never jump around.
Vous parlez de chaos total au moment du processus créatif, Camilla Läckberg. Alors comment se crée justement cet ordre sur le chaos quand on lit vos romans, quand on lit vos textes? On est quand même impressionné d'une façon générale par la mécanique, le rythme, la scansion. On a l'impression que c'est un puzzle parfaitement ordonné, parfaitement rangé. Comment vous extirpez cet ordre-là du chaos créatif?
I don't know.
Très bien.
No, but what I do try to do is.
Je ne sais pas. Ce que je fais, j'écris les 100 premières pages comme ça. Elles sortent et puis je m'arrête au bout d'une centaine de pages et je relis ce que j'ai écrit et j'essaye de voir s'il y a des nouvelles pistes que je pourrais essayer plus tard. Mais arrivé à la moitié du travail, la plupart du temps, j'ai un sentiment de panique parce que j'ai l'impression de me retrouver face à un immense bazar avec des fils et des directions et des intentions qui partent dans tous les sens et je me dis que je vais jamais réussir à mettre de l'ordre là-dedans. Et puis petit à petit, je tire sur un fil, je tire sur un autre et je commence à nouer le roman et c'est peut-être un petit peu comme de faire du crochet.
Nous sommes au cœur, Camilla Läckberg, de votre masterclass co-organisée par France Culture, la Bibliothèque Nationale de France et le Centre National du Livre. La première leçon peut-être que vous avez dessinée au cours de cette discussion, c'est écrit sur ce que tu connais un minimum. C'est comme ça que je me permets de la reformuler. Et pourtant, on ne peut pas tout connaître. Et un élément fondamental dans le polar, dans le roman policier, c'est quand même la crédibilité. Comment vous faites pour nourrir cette crédibilité? Est-ce que vous vous entourez de professionnels, de policiers, de juristes? Comment vous nourrissez cette crédibilité au cours de votre processus d'écriture?
Yes, that's where research comes in.
C'est là que la recherche entre en jeu et je fais beaucoup, beaucoup de recherches. Souvent, je m'attaque à des couches temporelles qui sont différentes. Ça peut être les années 80, ça peut être les années 20. Le plus loin que je sois remontée, c'est dans La Sorcière, donc les années 1700, période que je n'ai pas connue, contrairement à ce que peuvent penser mes enfants. Et donc, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de recherches. Et là encore, je me suis appuyée sur les conseils de ma professeure dans mes cours de creative writing, qui est, concernant les recherches, il ne faut pas être obligé de tout savoir, mais il faut être en mesure de mentir de manière crédible. Le 18e siècle, je ne le connaîtrai jamais, je ne suis pas spécialiste de cette période, mais j'ai lu suffisamment pour donner l'impression de savoir de quoi je parlais.
Ça me rappelle, Camilla Läckberg, ce proverbe anglais « ne laisse jamais la vérité se mettre en travers d'une bonne histoire ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ce proverbe, même s'agissant de l'écriture de polar ou de romans policiers?
Well, that sounds like American journalists these days.
C'est plus proche, effectivement.
C'est proche des journalistes américains de nos jours, non, de dire ça, non?
No, so I think that depends on what you're doing. If you're a journalist, that's not a very good thing to.
Toujours à propos de la recherche et de l'importance des travaux de recherche dans mon écriture, il en est de même pour l'écriture sur la procédure d'une enquête policière. Si je devais être aussi précise et factuelle que l'est une enquête policière, mes romans seraient absolument insupportablement rasoirs. Donc, est-ce qu'il faut mentir? Oui, mais il faut néanmoins fournir le travail. Je me suis rendu compte que j'avais toute ma vie durant fourni ce travail puisque depuis toute petite, je m'intéresse aux histoires criminelles et comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où les petites filles sont en âge de s'intéresser aux chevaux, je m'intéressais à Ted Bundy et que j'ai lu absolument tous les livres et que j'ai vu tous les documentaires dans toutes les langues possibles et imaginables sur le true crime, les histoires de vraies enquêtes policières. En plus d'être mon travail, c'est ma passion, c'est mon hobby que j'ai peut-être poussé un petit peu loin le jour où, après avoir divorcé de mon mari, après avoir écrit la série des Fjällbacka, j'ai épousé un officier de police. Ça n'a pas marché non plus. Je ne vous le recommande pas forcément.
You don't have to do that. I tried it and it didn't work, so yeah.
Camilla Läckberg, on imagine que l'immense jouissance aussi du point de vue des auteurs de polar, du point de vue de l'autrice que vous êtes, c'est de mener en bateau le lecteur, de le pousser vers une piste qui n'est pas la bonne pour le conduire vers le non-meurtrier. Quelle place tiennent les lecteurs au cours du processus de création, au cours de votre processus d'écriture? Est-ce que vous vous dites à chaque fois, le lecteur bêtement va penser ci, alors je vais l'induire vers ça?
Well, to be absolutely honest and don't be offended.
Pour être tout à fait honnête et n'en prenez pas offense, je ne pense pas du tout à mes lecteurs et lectrices. Quand j'écris, je pense à une lectrice, c'est moi. Je pense à la nécessité de me divertir, moi, d'écrire ce que j'aurais envie, moi, de lire. Et j'ai la chance d'avoir, manifestement, les mêmes goûts qu'un très, très grand nombre de personnes. Si je laissais une place au lecteur dans ma tête, ça serait absolument ingérable. Je ne vais pas commencer à m'interroger sur les goûts de mon lectorat. Donc je suis une écrivaine très très égoïste et je pense que c'est une bonne chose et que c'est comme ça que l'on peut écrire correctement.
Pourquoi avoir choisi à plusieurs reprises, Camilla Läckberg, le format sériel, le format des séries? On pense évidemment à Erika Fall qu'on retrouve durant 7 romans dont on suit la vie amoureuse puis la vie familiale. Est-ce que ça démontre au fond que le polar c'est avant tout et d'abord plus qu'une histoire de résolution de meurtre, une histoire de personnage, de psychologie et d'attachement au personnage?
I think part of that is due to Elizabeth George.
C'est en partie imputable à Elizabeth George qui a écrit la série des Lord Linley que j'aime beaucoup, pour lesquels je me rendais compte que j'avais autant de plaisir à suivre l'histoire policière que j'avais à suivre la vie des personnages. Et tout de suite, je me suis dit que j'allais écrire une série pour ces raisons-là. Et puis, quelle joie en tant que lectrice de savoir qu'on va lire non pas un roman, mais qu'on va retrouver ces personnages 9 ou 10 romans durant. Et c'est un luxe en tant qu'autrice de pouvoir développer ces personnages, non pas sur 400 pages, mais livre après livre, et de pouvoir les suivre longuement et de pouvoir les développer en profondeur. Donc l'idée de série est vraiment une idée de luxe d'écriture.
Vous nous avez bien expliqué, Camilla Läckberg, la façon dont vous construisiez vos histoires, vos récits, dont vous construisiez vos enquêtes meurtrières. Comment est-ce que vous imaginez et concevez vos personnages qui sont tout au long de votre œuvre et dans l'ensemble de vos romans, des personnages complexes dont on découvre la part sombre au fil des pages? Comment est-ce que vous construisez même leur psychologie? Est-ce que c'est en amont ou est-ce que là aussi c'est au fond en écrivant?
Encore une fois, j'aimerais bien être plus organisée que ça. Quand je retrouve mes collègues écrivains autour d'un déjeuner, je suis toujours impressionnée par leur méthode. Certains ont des petits carnets, un carnet par personnage, avec des listes de choses concernant leur enfance, leur grand-mère, ce qu'ils aiment manger. Ils savent tout de leur personnage avant même de commencer à écrire. Ce n'est vraiment, vraiment pas ma méthode. Encore une fois, j'ai une idée d'un personnage qui germe dans mon esprit. Et c'est comme si je rencontrais quelqu'un qui se présente à moi. Alors ça fait un peu New Age comme ça, mais c'est la vérité. Et mes personnages, quand j'écris, deviennent pour moi des vraies personnes. Et je pense que le succès en partie de mes livres est imputable au fait que l'on peut véritablement s'identifier à mes personnages. Parce que j'allais dire les gens normaux. Je rétropédale parce que j'aime plutôt les serial killers. Mais j'aime les choses de la vie de tous les jours. J'aime les petits problèmes et les choses du quotidien. Et je pense que j'articule dans mes romans des drames ordinaires à des drames extraordinaires. Les drames extraordinaires, c'est ceux qu'a priori, vous et moi, nous n'allons pas ou peu connaître comme un meurtre. Et puis les drames ordinaires, c'est ce qui se passe dans mes livres, un mariage, une séparation, un enfant au milieu, une belle-mère qu'il faut se farcir, ça vous a fait rire. Et puis tout ça, on peut s'identifier et je pense que c'est ce mélange qui fait que les livres fonctionnent.
The success of my books. I just also want to say that an extra bonus of being a writer.
Et le petit bonus quand on est écrivain, je parlais des petits drames ordinaires. Moi, j'ai traversé 2 divorces, j'ai 4 enfants, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais il peut arriver des petits bobos, des petits malheurs. Et on peut traverser des moments difficiles, on peut connaître des ruptures amicales. Et à chaque fois, je me dis, ah, c'est du super matériau ça pour écrire une histoire.
Every time that happens, a little part of me thinks that great material for the books.
Ça rend optimiste. Toutes vos histoires, Camilla Läckberg, s'inscrivent dans un contexte social et culturel, dans un contexte géographique, dans des territoires aussi très très précis, la côte suédoise, les grandes villes de la Suède également. Comment vous expliquez que, malgré le fait que vous écriviez sur ces contextes très précis, très locaux, comme on a coutume de dire là aussi dans un mauvais français, votre succès soit mondial, on le rappelle, hein, 30 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Est-ce qu'au fond, il faut écrire sur soi et sur son environnement précis pour dépasser les frontières? Est-ce que c'est ce que les lecteurs du monde entier recherchent, une ouverture sur le local?
I think there are several factors to that. One is that I do.
Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que la Suède a toujours éveillé une certaine curiosité. Les gens ont une image assez parfaite du pays où ils s'imaginent que tous les gens sont très grands et blonds. La preuve que non.
So there's this curiosity.
Et malgré tout, ils se demandent comment le polar nordique peut s'inscrire avec tous ces crimes, ces affaires de drogue, de viol, de meurtre dans ce petit pays absolument parfait. Et je pense qu'ils ont un certain plaisir, peut-être coupable, à trouver des défauts à cet endroit. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils aiment, je pense, trouver des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Et la nature humaine n'a pas véritablement de frontières. Un jour, j'étais face à une journaliste espagnole et je lui retournais la question que vous venez de me poser en lui demandant « Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman sur ce couple dans un tout petit village ?» Et elle m'a répondu « Mais parce que je viens d'un tout petit village en Espagne et j'ai adoré pouvoir m'identifier au personnage, je ne pensais pas que c'était possible. » Et je pense que c'est ce facteur humain qui est très très fort. Après tout, des belles-mères, il y en a dans le monde entier.
Mothers-in-laws are all over the world, aren't they? Yeah, we all have them, and we all can relate. I just want to say, I forgot I'm actually blonde at the moment, but it's very fake.
J'ai oublié de préciser que je suis blonde actuellement, mais c'est une couleur.
Vous avez voulu faire suédoise.
Yes, I tried to look Swedish when I'm coming here, so I can live up to your expectations. I couldn't do anything about the height, though.
J'ai essayé d'être à la hauteur de vos attentes. Question capillaire, en revanche, question taille, j'ai rien pu faire.
Le roman, le polar d'une façon générale, mais les vôtres en particulier, Camilla Läckberg, c'est très très souvent des excuses, et vous l'avez dit en creux, pour décrire, dessiner des fresques sociales. Et c'est vrai que dans vos romans, très souvent, on voit des milieux sociaux qui s'opposent, des gens issus de la bourgeoisie, d'autres de classes plus modestes qui vont se confronter sans qu'il y en ait une plus noble que l'autre, d'ailleurs, lorsqu'on creuse bien. Est-ce que ça, au moment de l'écriture, c'est quelque chose que vous pensez, que vous théorisez, ou là encore, c'est quelque chose qui jaillit du chaos?
It's always been very popular within Swedish crime noir to have a political agenda.
Cette tendance est très populaire dans la littérature noire suédoise. On en parlait tout à l'heure, cette notion d'intention politique. Il y a ça chez Svelle et Valo. Il y avait ça chez Mankell, une intention sociale et politique très très forte. Pour ma part, j'ai plutôt pris le contre-pied. Je ne voulais pas écrire en ayant un programme social à l'esprit. Je voulais écrire, comme je le disais, pour me divertir, pour m'amuser, en me disant que d'offrir au lecteur une manière de fuir un peu le quotidien et la réalité, c'était déjà pas mal et ça me suffisait.
That being said, it's hard to write books in a neotrim. It's hard to write books.
Ceci dit, c'est difficile d'écrire en laissant totalement de côté ses opinions, ses croyances, ses pensées. Et c'est chez moi devenu certainement plus prononcé avec l'âge, où j'ai tendance à plus volontiers exprimer mes opinions et les choses qui m'énervent. Mais néanmoins, il reste le fait que ce qui vient en tout premier, c'est l'histoire.
Everything is just coloring in the coloring book.
C'est l'histoire, vous l'avez dit, mais en avançant en âge, il y a une question qui prédomine de plus en plus dans votre œuvre. C'est la question du féminisme, de la place des femmes dans la société, dans leur rapport au travail, dans leur rapport à la famille. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment justement cette question peu à peu a émergé dans votre œuvre, comment elle a pris une place à part entière, jusqu'à même écrire des œuvres qui tournaient autour de cette question, même, j'allais dire, non pas uniquement, mais pratiquement uniquement?
Ça a
commencé à 40 ans, comme beaucoup, beaucoup de choses. Vous le savez bien, qui commence à 40 ans, parce que 40 ans, c'est génial. Et ma fille aînée était à peu près à la mi-adolescence et je me suis mise à réfléchir au monde qui l'attendait, dans lequel elle allait entrer une fois adulte. Et je me suis rendu compte qu'elle n'aurait pas du tout les mêmes conditions de vie que celles qui allaient s'offrir à mes fils. Pour faire simple, ils ont un pénis et donc les choses allaient être plus simples pour eux que pour ma fille, et ça, ça m'a dessillé. Tout à coup, je me suis mis à observer les choses.
Kind of opened my eyes, and I started thinking more and more about it. I started to be.
Et aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'y avais pas vraiment pensé jusqu'alors, et c'est là qu'a démarré pour moi le processus de sensibilisation à la question féministe. Et je me suis rendu compte que j'avais une plateforme, puisque j'avais une voix en Suède. On m'accorde beaucoup d'entretiens. J'ai un compte Instagram qui est très suivi. Je me suis dit que j'avais une responsabilité qui était d'utiliser cette voix pour parler de sujets importants. Et donc, je suis arrivée sur le tard aux questions liées au féminisme.
I was a late bloomer, late feminist bloomer. I do want to say that I don't view myself as an angry feminist.
Et je tiens à ajouter que je ne me considère pas comme une féministe en colère. Je suis une féministe en joie. Je suis une féministe heureuse. Je souhaite créer le changement et apporter une voix positive. Je n'ai aucune détestation pour les hommes. J'en ai épousé trois. Et je souhaite plutôt être moteur du changement et d'un changement positif.
Pour aller jusqu'au bout de ce cheminement créatif, Camilla Läckberg, il faut évidemment aborder la question de l'adaptation d'une large partie de votre œuvre. Adaptation puisque certains de vos romans, La Princesse des Glaces bien sûr, et bien d'autres ont été portés à l'écran, en bande dessinée. Comment est-ce que vous vivez ces autres types de traductions de vos romans? Est-ce que vous arrivez à les confier à d'autres auteurs de télévision, de bande dessinée? Est-ce que c'est un moment difficile pour vous, douloureux, ou est-ce que vous êtes heureuse de voir ces romans, ces personnages aussi prendre d'autres formes et des formes diverses?
Well, the books have been adapted several times, and it's a strange process.
Mes livres ont été adaptés à de nombreuses reprises, et pour tout vous dire, c'est un processus qui est très étrange parce qu'il faut faire le tri. Si un livre donne lieu à un audio livre d'une quinzaine d'heures, on ne peut pas se permettre d'en faire un film ou une série télé qui vont durer 15 heures. Je crois que même si on met bout à bout tous les Star Wars, on n'arrive pas à cette durée. Et donc, il faut faire des concessions, il faut éliminer certains personnages, peut-être en inclure d'autres qui n'existaient pas pour que ça marche. Et je suis particulièrement attentive au fait d'être fidèle peut-être plus à l'atmosphère qu'au fait du roman. Parce que quand on lit mes livres, ce qui est important, c'est l'atmosphère, le ressenti, les sensations que l'on éprouve. Donc je suis très très attentive à ça. Et puis c'est un travail très très pragmatique, mais c'est aussi un travail très très agréable. Imaginez un peu, vous aviez dans votre tête tous ces personnages, et puis tout d'un coup ils sont là, sur l'écran de cinéma, à parler, à se déplacer. C'est surréaliste, mais j'adore.
It's surreal, but it's absolutely amazing. I love it. And I get to meet really cool actors. But I don't want them to make the TV series or movies too good, because I don't want people to say that, oh, the TV series was much better than the books.
Mais je veux surtout pas que les séries télé ou les films soient trop bons, parce qu'après les gens vont dire, oh, dis donc, c'était meilleur que les livres quand même.
Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi le Père Noël a tué la Mère Noël?
Well, that was a story I wrote when I was 4 years old.
Cette histoire, je l'ai écrite quand j'avais 4 ans. À l'époque, je ne savais pas écrire, donc j'avais dessiné des petits dessins que j'avais sur des feuilles que j'avais pliées pour imiter un livre, et j'avais demandé à mon père d'écrire le texte. Donc le roman faisait 4 pages. Aujourd'hui, j'écris des choses un tantinet plus longues. Et la première page était toute mignonne. On voyait le Père Noël avec sa femme. Il y avait des fleurs, il y avait du soleil, il se tenait la main. Et puis le rythme très très rapide faisait que 4 pages plus tard, c'était l'enfer. Elle était par terre dans un bain de sang. Et finalement, ça donne une assez bonne idée de ce que j'étais enfant et des deux chemins qui s'offraient à moi. Soit je me mettais à écrire des romans policiers, soit je devenais serial killer. Je suis assez contente d'être avec vous ce soir. Quant au mobile, il n'était pas très compliqué. C'était un crime domestique, car le foyer est le lieu le plus dangereux où se déroulent 9/10 des crimes. Donc la prochaine fois que vous êtes chez vous, regardez bien votre douce moitié et gardez ça à l'esprit. Donc, épouser un combattant de MMA tel que je l'ai fait n'était peut-être pas la chose la plus maligne à faire.
C'était quand même en tout cas déjà un peu engagé, Camilla Lackberg. Mais merci beaucoup pour cet échange. Nous aussi, on est très, très heureux que vous soyez ici avec nous ce soir. Et on va se permettre de faire circuler le micro pour que chacune, chacun ici puisse poser les questions qu'il souhaite à Camilla Lackberg. Et déjà, une question. Merci beaucoup.
You can ask anything you want. As you can tell, I have no filter.
Et vous pouvez,
so ask away.
Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Je n'ai aucun filtre. Allez-y.
Donc déjà, je suis célibataire, donc je me sens beaucoup plus sûre. You are handsome, so you shine my little sacred. J'ai deux questions, you had four frågor. La première, c'est, vous écrivez maintenant des polars, mais est-ce que vous continuez à en lire? Et si oui, comment vous arrivez à pas être influencé par ce que les autres écrivains écrivent? Et la deuxième question, ce sera, est-ce que vous avez des petits rituels quand vous écrivez, des choses que vous préférez faire?
Est-ce qu'il y a des petits rituels qui surnagent du chaos?
Well, first question, I read a lot of other crime writers.
Alors, pour répondre à votre première question, oui, je lis énormément de polars, environ 80% de ce que je lis sont des polars. Je suis une vraie geek sur le sujet et j'apprends beaucoup en lisant et parfois ça me rend jalouse quand je tombe sur quelque chose de vraiment extraordinaire, ce qui est le cas avec l'histoire secrète de Donna Tartt. Donna Tartt que je déteste parce qu'elle a écrit ce livre et c'est pas moi qui l'ai écrit. Et souvent, les romans m'inspirent beaucoup.
So for me, it's just inspiration to read other fantastic crime writers. And as my rituals, since I'm such a chaotic person and writer, that kind of goes hand in hand.
Quant au rituel, je suis donc une personne totalement désordonnée en tant que personne et en tant qu'écrivain, ça va ensemble bien entendu, donc je m'oblige à travailler. Sans quoi je suis plutôt d'un naturel assez flemmard et je passerai volontiers mes journées devant la télé à regarder Real Housewives ou Dr. Phil. Donc je me force à travailler et à tenir des horaires de bureau et je ne travaille pas, je n'écris pas parce que soudain j'ai une inspiration et je ne me dis pas « Oh, est-ce que j'ai envie d'écrire aujourd'hui ?» Parce que la réponse serait non. Et donc je vais au travail, que cela me plaise ou pas. Parfois je passe un bon moment, parfois je passe un moment tout à fait détestable et c'est la source de beaucoup d'angoisse. Mais ce sont mes heures de bureau. Le bureau, en l'occurrence, étant mon canapé chez moi. Et je n'y vais pas bien habillée en tailleur, mais je suis en pyjama. Et j'ai mon assistant qui est là dans la salle et qui me suit pour la première fois en tour promotionnel là en Europe et qui doit halluciner de me voir habillée comme ça parce que la plupart du temps, je suis plutôt en pyjama à licorne, étant donné que j'ai un enfant de 7 ans. Mais voilà, pour moi, c'est ainsi que ça fonctionne en ayant des horaires de bureau.
So that's actually my best advice if there are any aspiring writers out there.
Et le meilleur conseil que je puisse donner aux aspirants écrivains et écrivaines dans la salle, c'est de ne pas croire toutes ces conneries sur l'inspiration parce que c'est pas comme ça que les bouquins s'écrivent, l'inspiration ça n'existe pas. Le seul moyen c'est de lever son cul et de le poser sur une chaise et de lever son cul tous les jours et de le poser sur une chaise et d'écrire, c'est comme ça qu'on écrit des livres.
C'était peut-être effectivement le meilleur conseil de cette séance. Et je crois qu'il y a une autre question ici.
Bonsoir. Votre anglais est absolument incroyable. Est-ce que vous écrivez parfois en anglais ou est-ce que vous écrivez toujours en suédois?
I only write in Swedish because it's my natural language. It's a language I think in. It's the language I dream in. But I can probably thank Dr. Phil for my excellent English.
J'écris exclusivement en suédois parce que c'est ma langue maternelle, c'est la langue avec laquelle je pense, je réfléchis et je rêve, mais c'est sans doute Dr. Phil que je dois remercier pour la qualité de mon anglais.
Vous dites que vous n'êtes pas une féministe en colère, cependant votre dernier livre est très noir et très en colère, enfin du point de vue féminin, c'est sanglant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et je vais me permettre juste de tirer le fil de cette question. Est-ce qu'au fond même, on peut être féministe sans être en colère?
You're absolutely right. It's quite an angry book, but I was very happy writing it. I had so much fun.
Vous avez absolument raison. Le propos est en colère, mais moi, j'étais très heureuse au moment de l'écrire et je me suis beaucoup amusée à l'écrire. Et je trouve l'idée de vengeance tout à fait réjouissante. Ça permet de penser ses plaies, penser à toutes ces choses horribles qu'on pourrait lui faire, comme de mettre des petits cadavres de crevettes dans sa boîte aux lettres. Ne le faites pas. Et c'est un processus joyeux auquel je me suis adonnée en n'étant pas du tout en colère.
Yeah, that's a tricky question, but I had a lot of fun writing it. And you asked if you can be a feminist and not be angry.
Pour répondre à votre question, est-ce qu'on peut être féministe sans être en colère? Pour ma part, je suis très pragmatique. Le monde est ce qu'il est. Les hommes comme les femmes y ont contribué. Et alors, c'est vraisemblablement un sujet sensible. C'est la question de la sororité. On ne va pas changer les autres. Mais je pense qu'il y a une difficulté chez les femmes à s'entraider. Difficulté que ne connaissent pas du tout les hommes, qui n'ont aucun problème à s'épauler, à se donner des coups de main, à avoir leur petit boys club, que ce soit en bien ou en mal. En revanche, ce n'est pas très développé parmi les femmes. Si au sein d'un CA, il y a 10 places, il y a une femme et 9 hommes,
in a company, and there's one female and 9 men, usually the other women in the company compete.
Toutes les autres femmes de l'entreprise vont être en concurrence avec cette femme-là. Et c'est un état d'esprit qui, à mon avis, est très prégnant et qu'il faudrait changer.
So I don't get angry. I just get more realistic and
et moi, je ne suis pas en colère, je suis plutôt réaliste. Et je pense qu'il faut changer la structure et pas individuellement le rôle de chaque genre et de chaque personne dans la société. La structure est le fruit d'une longue histoire et qu'il convient de changer ensemble.
C'est une structure qui vient de l'histoire. Peut-elle être changée? Absolument. Mais je ne pense pas qu'on peut changer en étant angry. The best thing we can do to change it is how we raise our daughters.
Je pense que la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est d'élever nos garçons et nos filles pour que la génération suivante soit différente. Je m'efforce pour ma part d'élever des filles, mes filles pour qu'elles soient fortes et mes garçons pour qu'ils soient forts et doux avant de les envoyer dans le vaste monde. Et je pense que c'est ce que l'on a de mieux à faire, à offrir des jeunes gens qui soient dans le partage et dans l'équité.
Oui, une question.
Vous avez dit que vous étiez une grande lectrice également. J'aimerais savoir si vous aviez un livre qui a changé votre perception du monde ou deux ou trois livres qui ont transformé votre façon de penser ou que vous conseillerez à des jeunes.
Yes, I'm trying to pick among all the books that come up in my head right now. I start thinking about the books I read when I was young, the great adventure stories.
Alors j'essaie de faire le tri dans tous les titres qui me viennent à l'esprit. Je pense assez spontanément à toutes les récits d'aventures qu'on lit quand on est jeune, tout ce qui est Narnia, Tolkien, qui nous ouvre sur un monde qui est extraordinaire, qui est magique et qui correspond pour les générations qui m'ont suivi à un peu ce qu'a généré Harry Potter en termes de lecture. Un monde de mystère, un monde de magie, magie dont on a grandement besoin aujourd'hui.
We need to have that magic in our lives. On the contrary, then, I would say that one book that really.
Parallèlement à ça, et peut-être en contre-pied, je vous citerai volontiers Le Parfum de Patrick Susskind, qui va très très loin et qui pousse très très loin la noirceur, tout en conservant aussi cette part de magie avec ce personnage qui de maléfique, mais que l'on a quand même envie de suivre. Et ce livre est resté très longtemps avec moi.
And then, as a Swede, one of the books that shaped me the most as a child.
Et puis je terminerai en citant Fifi Brindacier, que j'ai découverte donc en bonne suédoise quand j'étais petite, et qui est un personnage qui me suit encore aujourd'hui dans l'âge adulte.
Character for me, even in adulthood.
Toutes ces références qu'on a aussi en France et qui nous nourrissent énormément.
Bonsoir, j'aurais voulu savoir, vous avez un personnage qui apparaît dans plusieurs de vos livres, c'est Rika Flack, et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait de vous dans ce caractère.
When I started writing about Erica, I didn't want her to be me. That was a clear intention.
Quand j'ai commencé à écrire ce personnage d'Erica Falk, mon intention était très claire, ce n'était pas moi. Donc je l'ai créée grande, je l'ai créée blonde et plus âgée que moi. Et puis je me suis lancée dans l'écriture et je me suis rendu compte que je n'étais jamais aussi forte et efficace que quand je me basais sur mon expérience, sur mon ressenti, sur mes rêves.
And I started pouring myself into Erica. So yes,
et donc Erica, petit à petit, en est venue à emprunter des éléments de ma propre vie, je dirais 50% de ma propre vie, mais seul moi sais quels sont ces 50%.
And only I know which 50%. And she's named after my best childhood friend, Erica.
Et son nom est celui de ma meilleure amie d'enfance, Erica.
Madame.
La question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez véritablement que le livre a encore un avenir ? Parce que quand on voit la manière dont les séries prennent le pas dans la vie des gens et particulièrement avec le streaming, c'est tellement plus facile de se regarder une série sur sa tablette le soir que de lire un livre quelque part. Qu'est-ce qui va faire que le livre va pouvoir continuer à supplanter ou à continuer à exister et à vivre alors même que l'informatique et l'Internet, etc., rendent les choses tellement accessibles et tellement faciles quand c'est déjà en vidéo. Et quand on voit aussi comment nos enfants s'informent, c'est beaucoup par la vidéo, beaucoup par l'image, etc., et finalement de moins en moins par l'écrit, de moins en moins par le long, et on ne sait plus très bien lire des choses très longues aujourd'hui.
I'm one of those people who really believe that there's no way to kill books.
Je fais partie de ces gens qui pensent qu'on ne tuera jamais les livres et la littérature, que les livres seront toujours là. Nos manières de lire vont vraisemblablement changer. Au cours de la dernière décennie, les livres audio ont déjà bien grignoté le terrain et pris une place, qui n'est pas une chose négative. Les livres audio ont vraisemblablement permis d'atteindre un lectorat qu'ils n'avaient pas atteint jusque-là. Je pense qu'il y aura un changement de format et de pratique, mais je pense que le livre ne disparaîtra jamais. Any kind of reading, and I think we have a change in the
format, but I don't think the book will go away. Dernière question.
Bonsoir. Je voudrais rebondir sur le sujet des séries. Alors c'est vrai que, comme la dame le disait, il y a beaucoup de séries, et notamment policières. Est-ce que vous avez écrit des scénarios pour des séries policières, ou est-ce que vous aimeriez aussi écrire des scénarios?
I have started working a lot with TV and film, and I'm a part owner in two production companies.
Je suis propriétaire, j'ai une part dans deux sociétés de production qui produisent des séries et qui développent des scénarios pour le cinéma. Et j'ai écrit en tant que scénariste donc un film, Glacier. Et en tant que créatrice, j'ai lancé un soap opera qui a beaucoup de succès en Suède. Et j'adore développer pour la télévision. Je suis très impliqué avec mon co-auteur Henri Fixius dans la série qui est basée sur le livre que nous avons coécrit.
They are being developed into TV series and we're very involved in that as well. So yeah, I do love working with that format and I do see myself doing that more and more.
Et puis en règle générale, j'aime sortir de ma zone de confort d'autrice de romans pour me lancer des défis et me frotter à des univers que je ne connais pas forcément. Donc tout ce qui est scénario, écriture pour la télévision sont des défis que je relève volontiers et ça me permet de gagner, de conserver de l'énergie pour continuer à écrire. Donc longue réponse, mais oui, je me frotte volontiers à cet univers de la télévision et du cinéma.
Long answer to a short question, but yes, I do think I will work more and more with that as well. I love it.
Merci beaucoup Camilla Lackberg pour cette discussion, cet échange passionnant sur la création, pour cette discussion aussi avec la salle. Je rappelle que l'ensemble de vos romans en France sont parus et continueront de paraître sans doute aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup aussi à Fabienne Gondran pour la traduction, c'est impressionnant de vous voir au travail. Et puis merci énormément à la Bibliothèque nationale de France, à France Culture et au Centre national du livre pour l'organisation de cette masterclass et celles qui suivront. Merci encore. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous pour cette masterclass et pour l'achever. Vraiment, cette fois-ci, j'ai souhaité que l'on écoute l'écriture de Camilla Lackberg, les premières pages en réalité de son roman le plus célèbre, roman intitulé « La Reine des Glaces » qui a paru chez Actes Sud. Ces premières pages vous sont lues par Odile Cohen.
Eilert Berg n'était pas un homme heureux. Il respirait avec difficulté, de petites bouffées blanches sortaient de sa bouche, mais la santé n'était pas ce qu'il considérait comme son plus grand problème. Svea avait été si belle dans sa jeunesse, et il avait eu du mal à patienter avant de pouvoir convoler en juste noces avec elle. Elle avait à l'époque l'air si douce, aimable et un peu timide. Sa véritable nature s'était révélée après une trop courte période de fantaisie juvénile. Depuis près de 50 ans maintenant, c'était elle qui portait la culotte, et avec fermeté. Mais Eilert avait un secret. Pour la première fois, il entrevoyait une possibilité d'un peu de liberté à l'automne de sa vie, et il entendait ne pas la rater. Il avait travaillé dur comme pêcheur toute son existence et ses revenus avaient tout juste suffi à faire vivre Svea et les enfants. Désormais, il ne disposait que de leur maigre retraite. Sans économie, il n'avait pu envisager d'aller s'installer ailleurs seul pour refaire sa vie. Puis cette opportunité s'était présentée comme un don du ciel et elle était d'une simplicité enfantine. Si des gens avaient envie de payer des sommes indécentes pour une heure de travail par semaine, c'était leur problème. Ils n'iraient pas s'en plaindre. En un an seulement, les billets dans la boîte en bois derrière le tas de compost avaient fini par former une liasse impressionnante et d'ici peu, il aurait assez d'argent pour pouvoir s'échapper vers des cieux plus cléments. Il s'arrêta pour reprendre son souffle dans le dernier raidillon et frotta ses mains engourdies. L'Espagne, ou la Grèce peut-être, dégèlerait le froid qu'il sentait l'emplir. Eilert pensait avoir encore au moins 10 ans devant lui avant que son heure ne sonne, et il avait l'intention de les utiliser au mieux. Pas question de les passer à la maison en compagnie de Bobonne. La promenade matinale quotidienne avait été son seul moment de tranquillité et lui avait permis en outre de faire un peu d'exercice dont il avait bien besoin. Il suivait toujours le même chemin et ceux qui connaissaient ses habitudes sortaient souvent pour bavarder un moment. Il avait particulièrement apprécié les discussions avec la jolie fille dans la maison tout en haut de la montée, à côté de l'école de Hockenbacken. Elle n'y venait que le week-end, toujours seule, mais se donnait le temps de parler de la pluie et du beau temps. Mademoiselle Alexandra s'intéressait au Fjällbacka d'autrefois, et ça, c'était un chapitre dont Eilert aimait bien discuter. Et mignonne aussi, la demoiselle. Ça, c'était quelque chose qu'il appréciait encore, même à son âge. Oh, bien sûr, certaines rumeurs avaient couru sur cette fille. Mais si on commençait à écouter ce que disaient les bonnes femmes, on ne ferait bientôt plus que ça. Un an auparavant, elle lui avait demandé s'il pouvait envisager de jeter un coup d'œil à sa maison les vendredis matins, puisque de toute façon, il passait devant. C'était une vieille maison, et la chaudière, tout comme la tuyauterie, était peu fiable. Et elle n'avait pas très envie d'arriver dans une maison glaciale pour le week-end. Elle lui donnerait une clé, juste pour entrer et vérifier que tout était en ordre. Il y avait eu pas mal de cambriolages dans le secteur, et il devait aussi contrôler les fenêtres et les portes. Ce n'était pas une mission spécialement pesante, et une fois par mois, il trouvait une enveloppe portant son nom dans la boîte aux lettres de la maison, avec une somme d'argent royale à ses yeux. De plus, il trouvait agréable de se sentir utile. Pas facile de rester oisif après avoir travaillé toute une vie. La grille était de travers et grinça quand il l'ouvrit côté jardin. La neige n'était pas déblayée et il envisagea de demander à l'un des garçons de venir lui donner un coup de main. Ce n'était pas un boulot pour une femme. Il sortit maladroitement la clé et prit garde à ne pas la laisser tomber dans la neige profonde. S'il était obligé de se mettre à genoux, il ne pourrait plus se relever. L'escalier couvert de glace était traître, et la rampe lui fut utile. Eilert était sur le point de glisser la clé dans la serrure quand il vit que la porte était entrouverte. Étonné, il l'ouvrit et entra dans le vestibule.
« Ohé, y a quelqu'un ?»
Elle était peut-être déjà arrivée. Pas de réponse. Il vit sa propre haleine sortir de sa bouche et se rendit soudain compte que la maison était glaciale. Brusquement, il ne sut plus quoi faire. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Et il eut l'intuition qu'il ne s'agissait pas simplement d'une chaudière défectueuse. Il passa dans les pièces. Tout semblait intact. Un ordre impeccable y régnait, comme d'habitude. La vidéo et la télé étaient à leur place. Après avoir inspecté le rez-de-chaussée, Eilert monta les marches vers l'étage. L'escalier était raide et il dut s'agripper à la main courante. Arrivé en haut, il entra d'abord dans la chambre. Une chambre très féminine, très chic et aussi bien tenue que le reste de la maison. Le lit était fait et il y avait une valise posée au pied qui semblait ne pas avoir été défaite. Il se sentit brusquement un peu bête. Elle était peut-être arrivée plus tôt que prévu, avait découvert que la chaudière ne marchait pas et était sortie trouver quelqu'un pour la réparer. Pourtant, Il ne croyait pas lui-même à cette explication. Quelque chose n'allait pas. Il le sentait dans ses articulations, comme parfois il pouvait sentir l'approche d'une tempête. Il poursuivit lentement sa progression dans la maison et pénétra dans les combles aménagés, avec toits mansardés et poutres apparentes. Deux canapés se faisaient face de part et d'autre d'une cheminée. Quelques magazines étaient éparpillés sur la table basse, mais sinon tout était à sa place. Il retourna au rez-de-chaussée. Là non plus, rien ne semblait déranger. Ni la cuisine ni le séjour n'avaient l'air différent des autres jours. La seule pièce qui restait était la salle de bain. Quelque chose le fit hésiter avant de pousser la porte. Tout était toujours calme et silencieux. Il resta indécis un instant, comprit qu'il était ridicule et ouvrit résolument la porte. Quelques secondes plus tard, il se rua sur la porte d'entrée aussi vite que son âge le lui permettait. Au dernier moment, il se rappela que les marches étaient glissantes et attrapa la rampe à temps pour ne pas dégringoler dans l'escalier la tête la première. Il progressa tant bien que mal dans la neige, couvrant l'allée du jardin, et pesta contre la grille récalcitrante. Une fois sur le trottoir, il s'arrêta, désemparé. Il vit un peu plus bas dans la rue quelqu'un qui s'approchait d'un bon pas et reconnut bientôt Erika, la fille de Torre. Il lui cria de s'arrêter. Elle était fatiguée, fatiguée à en mourir. Erika Falk éteignit son ordinateur et alla dans la cuisine remplir sa tasse de café. Elle se sentait harcelée de tous les côtés. L'éditeur voulait un premier jet du livre pour août et elle venait à peine de s'y mettre. Le livre sur Selma Lagerlöf, le cinquième dans sa série de biographies des femmes écrivains suédoises, aurait dû devenir le meilleur. Mais l'inspiration lui manquait complètement. Il y avait maintenant plus d'un mois que ses parents étaient décédés, mais le chagrin était aussi vif aujourd'hui que lorsqu'on lui avait appris la nouvelle. Faire le tri dans leur maison s'était révélé plus fastidieux que ce qu'elle avait cru. Tout réveillait des souvenirs. Il lui fallait plusieurs heures pour remplir un seul carton. Chaque objet étant bourré d'images d'une vie qui tantôt semblait terriblement proche et tantôt très très lointaine. Enfin, ça prendrait le temps qu'il faudrait.
C'était la masterclass de Camilla Läckberg avec Quentin Lafay, enregistrée à la bibliothèque François Mitterrand. Attachée de production Corinne Amar, coordination Christine Bernard, prise de son Hervé Dubreuil, coordination technique Francesca Fossati, réalisation Alexandra Malka.